Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 23 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ça vaut le détour. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_M. Vous pouvez nous soumettre en tout temps des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. Plusieurs sujets chauds dans l'actualité, car du 21 au 27 février, c'est une semaine nationale d'action contre l'austérité. Une quarantaine d'actions qui comprennent des occupations et des assemblées publiques auront lieu un peu partout au Québec. En réaction aux coupures annoncées par le gouvernement libéral dans son budget 2016. Alexandra Damour, dans sa chronique Ex aequo, revient sur la manifestation organisée par la coalition Main Rouge pour un meilleur partage de la richesse qui avait lieu hier à Montréal. Marc-Antoine Ducharme sera dans nos studios. Il est directeur de Parasport Québec, autrefois connu comme l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant. On discute avec lui des principales disciplines mises de l'avant par l'organisme. On découvre les lunettes eSight qui opèrent une petite révolution dans le milieu médical avec leur technologie électronique conçue spécialement pour les personnes avec une basse vision. David Demers, responsable du développement des affaires et relations publiques, sera avec nous pour en parler. Il va être dans nos studios à 12h45. On se tourne d'abord vers l'Institut national canadien pour les aveugles, dont la division québécoise vient de mettre sur pied un groupe de soutien pour les proches aidants des personnes en perte de vision. Ils offrent un soutien psychosocial et des stratégies pour faciliter les activités quotidiennes. Avec nous, dans les studios, nous avons Marie-Camille Blais, directrice générale de l'INCA, Division du Québec. Bonjour, Madame Blais.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Plaisir.
Donc d'abord, quelques mots pour présenter l'INCA Chapitre Québec.
L'INCA, c'est un organisme de charité qui est au Québec depuis près de 80 ans, plus de 80 ans. Il existe depuis, en 2018, ça va faire 100 ans, on va célébrer le 100e anniversaire. Et c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui sont aveugles ou en perte de vision, en offrant des programmes et services, du soutien communautaire.
Et donc, on parle d'un chapitre québécois qui est actif dans toute la province.
Oui.
Et mis à part les ressources qui sont mises à disposition des personnes en perte de vision ou malvoyantes, vous démarrez aussi ce projet qui s'adresse aux proches aidants de
oui.
ces personnes-là.
On démarre. En fait, nous avons eu un premier groupe la saison précédente qui était un groupe par un groupe de soutien téléphonique pour les proches aidants. Le nouveau groupe qui démarrera a été rendu possible grâce à une subvention de l'appui. C'est un programme de proches aidants pour les aînés et pour la région de Montréal. C'est un programme qui se tiendra dans nos locaux à raison de 6 semaines, une fois par semaine.
Et donc, au départ, c'était un projet pilote de soutien par ligne téléphonique. Et là, c'est un nouveau projet de groupe, de réunion de groupe?
C'est pas nécessairement un projet pilote parce que on a instauré ce nouveau groupe-là en raison des besoins qui se font sentir avec la population qui est née, qui est grandissante et de plus en plus de pertes de vision chez les aînés. Nous a amené à dire bien, ce serait important de donner aussi, de travailler avec les proches aidants eux-mêmes qui viennent en aide aux gens qui sont nos clients.
Justement, quels besoins est-ce que vous avez remarqué qui proviennent des proches aidants?
Mais les besoins, c'est que les gens souvent sont désemparés devant la situation et le rôle est inversé. Parfois, c'est comme la personne qui vient avoir besoin de l'aide était celle qui était souvent, des fois peut-être, celle qui aidait, ça peut être dans une relation de couple, le conjoint. Alors, les rôles s'inversent un peu. Et c'est aussi d'accompagner les gens parce que une perte de vision ne signifie pas que tout s'arrête. C'est de travailler de ce côté, de soutenir les gens, de travailler aussi dans notre approche du groupe de soutien. L'exemple, la première rencontre et la dernière rencontre sont des rencontres conjointes avec le proche aidant et l'aidant, afin de déterminer ensemble un objectif. Et à la fin de la rencontre, il y a encore une rencontre avec les deux pour voir si c'est vrai. Parce qu'encore, je me dis, ces rencontres-là, qui sont des rencontres sur place, sont une première.
Et donc, on parle de combien de rencontres à ce moment-là?
On parle de 6 rencontres.
Et est-ce que dans chaque rencontre, est-ce qu'il y a déjà des sujets qui sont déterminés que vous allez aborder?
Il y a des thèmes. La première rencontre, c'est une rencontre plutôt d'introduction et comme on doit déterminer les objectifs pour l'aidant et le proche aidant. La deuxième rencontre, c'est faire le tour des ressources parce que INCA offre du soutien communautaire, mais souvent aussi un endroit de premier appel pour les ressources qui sont disponibles pour les gens en perte de vision. Le troisième, c'est c'est quoi le changement de rôle au niveau de l'aidant? Parce que ça veut dire qu'en étant un aidant, on prend une place un petit peu plus différente que celle qu'on avait quand on n'était pas un aidant. Et de voir quels sont, ça représente quoi l'augmentation des responsabilités des tâches. La quatrième session est autour des défis qu'apporte la perte de vision et le rôle de proche aidant. Et la cinquième, ce sont des trucs pour prendre soin de soi à travers tout ça, de garder son équilibre. Et la sixième, encore là, comme je disais, c'est la sixième, c'est la conclusion, c'est le retour sur les différentes sessions et ce de voir comment on a rencontré les objectifs qu'on s'était établis au début.
Et ça s'échelonne sur 6 semaines?
6 semaines.
Et est-ce qu'il va y avoir plusieurs groupes? Ce sont des groupes de combien de participants que vous visez?
Ce sont des groupes entre 8 et 12 personnes, OK? Et on va commencer avec un groupe. La session passée, c'était un groupe téléphonique. Donc, c'était partout à travers le Québec. Comme je dis, la particularité de ce groupe-ci, c'est sur place et ce sont des gens qui sont soit un proche aidant ou un aidant qui demeure dans la région de Montréal, à Montréal. Et on prévoit d'autres sessions et selon la demande, il y aurait probablement des possibilités qu'il y ait peut-être 2 sessions aussi.
Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un partenariat avec d'autres organismes pour instaurer ces groupes de soutien ailleurs, dans d'autres régions du Québec?
Ce serait possible, comme tout organisme communautaire et tout organisme de charité. On est intéressé. Comme je dis, nous sommes présents partout au Québec, mais surtout à distance. Mm-hmm. Physiquement, nous sommes présents à Montréal. Nos groupes de soutien rejoignent tout le monde et on pourrait travailler avec un organisme dans une région éloignée qui aurait identifié des personnes et ce serait quelque chose qui pourrait être évalué.
Pour partager l'expertise aussi que vous êtes en train de mettre en place, finalement. Est-ce que le service téléphonique va rester disponible?
Pour cette session-ci, le groupe de soutien téléphonique sera remplacé au printemps pour le groupe de soutien sur place. Et on prévoit, s'il n'y a pas de croissance dans les groupes, d'alterner une session où ce sera un groupe de soutien téléphonique et la saison d'après, ce sera un groupe de soutien sur place.
J'aimerais qu'on aborde cette question-là de la relation du proche aidant avec la personne aidée, si on peut écrire mm-hmm. entre guillemets. Vous, en travaillant à l'INCA, vous l'avez remarqué depuis longtemps, ces relations qui se transforment. Quels sont les défis principaux des proches aidants et des personnes qui se retrouvent dans une position d'aider?
Les défis, écoutez, ce serait peut-être une question qui s'adresserait à mon intervenant psychosocial, mais les défis de comme on dit, le programme de proche aidant s'adresse à des aînés, donc bien souvent des gens qui ont vécu toute leur vie avec une certaine vision. Mm-hmm. Alors, il peut avoir, bon, c'est faire le deuil de cette perte de vision-là, c'est de s'adapter la façon dont on vit dans le quotidien. C'est aussi s'assurer les défis. C'est une question, je dirais, ça dépend des personnalités. C'est de ne pas infantiliser la personne qui est en perte de vision. Parce que cette personne-là a quand même... Elle perd sa vue, mais elle ne perd pas ses autres moyens. Et ce serait peut-être un sujet pour une autre suite aux rencontres. Comme je dis, c'est assez pointu comme question. Et peut-être que mon intervenant psychosocial pourrait plus élaborer là-dessus.
Ça reste tout de même quelque chose d'intéressant que vous aurez certainement l'occasion d'explorer dans ces rencontres de soutien. Si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il reste de la place?
Oui, il reste quelques places. Et on peut s'inscrire en appelant à INCA au 514-934-4622. Et on peut parler à Najla Nouri, qui est l'intervenant psychosocial.
Oui,
permettez-moi.
Bien sûr.
Et si, pour une raison quelconque, il n'y a plus de place, mais ça nous fera plaisir d'ouvrir une liste pour la prochaine session.
C'était ma question, en fait. Si vous êtes victime de votre succès et qu'il n'y a plus de place, à ce moment-là, il y aura une liste d'attente et peut-être prévoir d'autres groupes de rencontres. On vous souhaite un succès avec cette nouvelle initiative. On va surveiller ce qui se passe de ce côté. Madame Marie-Camille Blais, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de l'INCA Division Québec.
Merci de nous avoir reçus.
Sur ce rocher dans les broussailles, au vent d'avril, je suis monté. Il fait plus chaud sur la montagne, j'ôte la veste et le chandail. Y'a que la brise et les oiseaux, plus de klaxons ni de moteurs. Sur le grand lac, plus de bateaux, seulement la cognée de mon cœur. Il s'est arrivé quelque chose, bombe atomique, jugement dernier. Vous seriez parti pour le ciel et le sort m'aurait épargné. Près de la piste désertée, seulement l'abeille qui bourdonne. Aucun chalet n'est occupé et c'est étrange, je me sens comme le dernier homme. Comme s'il n'y avait plus personne. Comme si tu m'avais oublié. Comme le dernier homme. Comme le roi ou l'astronome sur sa planète abandonnée. J'irai jusqu'à la prochaine ville. J'aurai ma chambre et ma bouteille. À l'horloge aux bras immobiles, je t'attendrai dans mon sommeil. J'irai marcher dans le désert, là où le soleil nous assomme. Je m'étendrai les yeux ouverts, nu et brûlé, je serai comme le dernier homme. Comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié. Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome, sur sa planète abandonnée.
J'ai dû dormir sur mon rocher, dans la montagne du hibou. J'ai soif, j'ai faim, il faut bouger. Oh mes amis, où êtes-vous? Saison, château, génération. Autour de moi, ça tourbillonne. Et loin des cris et des passions, le soir descend, je me sens comme, comme le dernier homme. Comme s'il n'y avait plus personne, comme si je m'avais oublié. Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome, sur sa planète abandonnée. Comme, comme le dernier homme, comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié.
Pierre Flynn avec sa pièce Le Dernier Homme, tirée de son album Sur la Terre, paru en 2015. Depuis le 1er avril 2012, l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant a changé d'appellation et se nomme désormais Parasport Québec, afin d'être plus inclusif. On parle avec le directeur de Parasport Québec, Marc-Antoine Ducharme. Bonjour, Monsieur Ducharme.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Tout d'abord, quelle est la mission de Parasport Québec? Est-ce que le fait d'avoir un nouveau nom depuis bientôt 4 ans a changé la mission première de l'organisme?
Ça n'a pas changé la mission, mais ça l'inclut plus de personnes. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait juste des sports en fauteuil roulant. Maintenant, on a d'autres sports comme le volleyball assis, le vélo à main, le hockey luge, qui n'est pas des sports qui se font en fauteuil roulant, mais qui étaient aussi également déjà présents avant qu'on change de nom. Donc, ça l'a juste plus reflété notre réalité du moment. Là.
Mais votre spécialité reste tout de même les sports en fauteuil roulant.
Les sports en fauteuil roulant et les parasports, là, si on pourrait dire. Là.
Et comment est-ce qu'on développe, en fait, un sport qui peut s'adapter aux personnes en fauteuil roulant?
Mais à la base, c'est des gens qui sont intéressés à faire ce sport-là. Donc, tous les sports qui ont émergé, c'est qu'il y a un groupe de gens, au départ, qui aimaient ce sport-là et qui ont décidé de l'adapter. C'est comme ça que le basket est parti. Le vélo à main. Donc, c'est la plupart des sports, c'est des sports qui existent déjà puis qui se sont adaptés. Mais il y a un exemple qu'on a, c'est comme le rugby en fauteuil roulant. Ça, c'est un sport qui s'est créé plus en lien avec le handicap. Donc, c'est des gens qui avaient un handicap aux membres supérieurs puis qui jouaient au basket, mais qui se rendaient compte que c'était dur pour eux de lancer le ballon au panier en hauteur. Mm-hmm. Il n'y avait pas les membres puis la force pour faire ça. Donc, ils ont développé un nouveau sport qui n'existait pas, qui est le rugby en fauteuil roulant, qui leur permettait là, de plus développer leurs habiletés puis de pouvoir performer dans ce sport-là. Donc, il y a des adaptations de sport, puis il y a des nouveaux sports qui se créent aussi vraiment en lien avec le handicap. Là.
Une des missions aussi, c'est de coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports à oui. tous les niveaux de performance. Donc, on parle aussi autant du niveau amateur que professionnel.
Oui, on parle de l'initiation. On va dans les centres de réadaptation pour initier les nouveaux accidentés ou dans des centres de réadaptation où il y a des jeunes, les initier à ces sports-là. Parce que ce n'est pas des sports qu'ils voient à la télé. Hein. Souvent, ils n'ont pas le réflexe naturel de « Ah, peut-être que ce sport-là existe. » Le monde qui voit le hockey, puis les jeunes qui veulent jouer au hockey, ils savent que ça existe parce qu'ils voient ça à la télé, puis c'est un sport populaire. Tandis que nos sports ne sont pas beaucoup médiatisés. Donc, il faut vraiment aller les initier, leur montrer que ce sport-là existe. Ensuite, les référer aux clubs locaux le plus proche. Ou s'il n'y en a pas, on peut les aider à partir un club local dans leur région. Donc, c'est vraiment de l'initiation à partir des clubs jusqu'à aller porter des athlètes là, sur les équipes nationales. Là.
Et vous parliez du rugby comme un exemple de sport qui avait été créé. Est-ce qu'on a une Ligue au Québec de rugby?
Oui, on a une Ligue au Québec de rugby en fauteuil roulant. C'est surtout dans les grands pôles. Il y en a à Québec, à Montréal puis à Sherbrooke. Mais de la manière que les tournois sont faits, même des gens qui n'ont pas assez de personnes pour avoir un club dans leur région, ils peuvent s'inscrire individuellement dans les compétitions. Puis on forme les équipes là, pour pouvoir accueillir tout le monde qui veut participer. Là. Donc même si il n'y a pas de club dans ta région, tu peux quand même participer à une ligue puis à des tournois là, avec une équipe durant la saison. Là.
Mais quelles sont les principales disciplines que vous mettez de l'avant ou celles peut-être qui regroupent le plus de participants?
Ouais. Les disciplines où il y a vraiment un circuit où le sport est vraiment organisé au Québec, tu as l'athlétisme en fauteuil roulant, le basket, le power chair soccer, qui est un sport qui se joue en fauteuil électrique, sport d'équipe qui joue en fauteuil électrique, le rugby et le tennis. Ça, c'est vraiment l'espace qu'il y a des compétitions au Québec, il y a un circuit et tout ça. Sinon, les autres sports, c'est plus des individus qui le pratiquent. Puis, pour donner un exemple, l'escrime, la première compétition que tu vas participer en escrime, c'est une Coupe du monde. Donc, il n'y a pas d'événement provincial, il n'y a pas de championnat canadien, c'est une Coupe du monde directement. Donc, il y a des sports comme ça qui sont moins développés parce que c'est certains individus qui le pratiquent. Donc, on s'occupe de ces athlètes-là, mais on ne peut pas dire qu'on s'occupe de la discipline parce qu'il n'y a pas de compétition organisée, quoi que ce soit, parce que le bassin n'est pas assez grand.
Mm-hmm. Est-ce qu'à ce moment-là, ça cause peut-être des problèmes pour avoir accès aux endroits de pratique ou au matériel de pratique?
Pas nécessairement. Comme je vous donne l'exemple de l'escrime, des clubs d'escrime réguliers existent déjà. Donc, c'est juste d'ajouter une plaque. Là. L'escrime se joue sur une plaque d'escrime. C'est juste de trouver une plaque d'escrime qu'on peut mettre dans ce club-là. Puis après ça, le sport peut se pratiquer. Fait que ça prend pas nécessairement beaucoup d'individus. C'est sûr que les sports d'équipe, c'est un peu plus complexe. Là. Il faut qu'il y ait vraiment un regroupement pour pouvoir pratiquer le sport. Mais des sports individuels, ça se fait assez bien, là.
Est-ce que tous les sports qui sont présents ou du moins encadrés par Parasport Québec sont présents aux Paralympiques?
Tout à l'exception de un. Il y a le power chair soccer. Ça, c'est un, comme je disais tantôt, c'est un sport qui se pratique pour les gens qui sont en fauteuil électrique. C'est un sport qui vient de se développer. Là, je pourrais dire, ça fait 20 ans qu'il existe, mais dans les 5 dernières années au Canada, ça progresse énormément. Puis il faut que la discipline progresse aussi à l'international pour pouvoir se rendre aux Paralympiques. Mm-hmm. Donc, des fois, ça dépend pas juste de nous, ça dépend aussi de comment que le sport est populaire dans les autres pays pour qu'il soit assez populaire pour se rendre aux Paralympiques. Donc, pas nécessairement. La presque totalité, oui, à exception de un, là, qu'on présume, puis que le but, c'est qu'il soit aux Paralympiques, là, peut-être en 2026. Là.
Et quels sont les sports qui ont justement le plus émergé en popularité dans les dernières années?
Le sport le plus populaire, c'est le basketball en fauteuil roulant. Puis le sport qui a émergé dernièrement, là, c'est rendu Hockey Québec qui en occupe. On a fait un partenariat avec Hockey Québec parce qu'au début, c'est nous qui s'occupaient du hockey luge. Mais maintenant, c'est Hockey Québec qui s'en occupe. Mais ce sport-là, depuis les Jeux de Vancouver en 2010, a énormément progressé au Québec. Là. En Ontario, c'est déjà très populaire. Au Québec, là, c'est vraiment rendu un sport très populaire également. Il reste juste que les autres provinces aussi embarquent pour que le sport progresse là, au Canada. Là.
Mm-hmm. Vous parlez des Olympiques de Vancouver qui ont peut-être donné, fait découvrir le sport à un plus grand nombre puis donné l'envie de participer à ce sport-là. Est-ce que le fait que la plupart des compétitions de parasport ne soient pas télévisées, est-ce que ça nuit un peu au développement des différents sports?
Oui, bien comme je vous dis, ça nuit beaucoup parce qu'on se rend compte encore aujourd'hui, c'est malgré le fait que les sites Internet sont très développés et tout ça, on se rend compte en parlant aux parents de jeunes enfants qui ont des handicaps qui ne savaient pas que ces sports-là existaient. Ou que des fois, ils savaient que ça existait, mais ils ne pensaient pas que nécessairement qu'il y en avait au Québec. Donc, le fait qu'on le voit pas à la télé et tout ça, fait que des fois, les gens pensent que ça n'existe pas. Malgré le fait qu'on est quand même assez présent. Si on inscrit Parasport Québec, ou peu importe le sport qu'on va inscrire dans Google, on va tomber sur nos pages à nous, là. Mm-hmm. Directement, on est très, très bien référencés dans Google. Mais encore là, le monde, des fois, ils n'ont pas le réflexe de le faire. Ils font juste penser que ce sport-là n'existe pas dans leur région ou dans la province, mais il y a quand même un bon réseau là, qui est assez bien développé là, au Québec.
Et même si, comme vous l'évoquiez, même si le sport est peu développé dans leur région, vous pouvez quand même les aider à pratiquer le sport.
Oui, il y a toujours des moyens. Ou les sports individuels, c'est vraiment plus facile, mais même les sports d'équipe, il y a toujours des moyens de faire intégrer des équipes, là, malgré le fait qu'il y a, mettons, qu'ils n'ont pas le bassin dans leur région pour pouvoir le pratiquer. Fait qu'il y a toujours moyen de pratiquer le sport, peu importe la situation.
Oui, M. Ducharme, vous aurez un événement au mois d'avril qui sera à la fois un spectacle bénéfice et un gala d'intronisation pour des athlètes émérites. J'aimerais qu'on en parle quelques minutes.
Oui, c'est un nouveau concept qu'on a élaboré cette année. C'est de mixer un peu une campagne de financement avec un humoriste qui est Jérémy Demey, qui va faire la première partie. Et puis, en deuxième partie, on va introniser nos athlètes émérites là, au Temple de la Renommée. On a trois personnes qui ont été intronisées cette année, qui est Pierre Pomerleau, qui est le premier entraîneur de Chantal Petitclerc, Jacques Martin, qui est un athlète de lancer en athlétisme, qui est maintenant décédé. On n'a pas pu l'introniser pendant qu'il était vivant, mais qui a été intronisé à titre posthume là, le 6 avril. Et Séverine Tombereau, qui est une des pionnières entraîneurs de tennis en fauteuil roulant. Donc, c'est vraiment un événement pour amasser des fonds pour l'association, puis en même temps d'introniser là, nos pionniers. Là.
Et donc, est-ce qu'on retire un chandail? Y a-t-il un temple de la renommée qu'on peut visiter après?
Non, pas encore. Il n'y a pas encore de temple de renommée du sport au Québec. Là, on parle de parasport, mais même tous les autres sports, il n'y a pas encore de temple de renommée du sport au Québec. C'est un projet qui est long. Il y a du monde qui mène ce projet-là, qu'il y ait un temple de renommée du sport au Québec, soit au stade olympique ou dans un endroit quelconque. Mais il n'y a pas encore d'endroit où ce qu'on peut se retirer puis avoir des objets là, comme ça. Parce que c'est sûr que chaque fédération sportive ne peut pas en avoir un individuellement, mais une moment donné, il va en avoir un là, pour tous les sports fédérés au Québec. Là. Mais c'est dans l'air.
Ce sera à surveiller. Marc-Antoine Ducharme, vous êtes directeur de Parasport Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Après la pause, on s'entretient avec Alexandra Damour de Ex Aequo. Restez avec nous.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Maxime D. Pomerleau.
Ça vaut le détour, il est 12h30. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal barre de soulignement M. J'en parlais en début d'émission. Nous sommes dans une semaine assez mouvementée au Québec, donc du 21 au 27 février, une semaine nationale d'action contre l'austérité. Et j'ai au bout du fil Alexandra Damour de Ex Aequo qui est là-dedans en ce moment. Vous êtes là-dedans.
Oui, exactement. Ex Aequo est devenu membre sympathisant de la coalition Main Rouge depuis maintenant un an environ. On s'est affilié à cette coalition-là, à ce mouvement-là, parce que il y a un an, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'organisme de personnes en situation de handicap faisait partie de la coalition, donc on trouvait ça important d'y être.
Et justement, la coalition qui regroupe autour d'une centaine d'organismes à vocation communautaire, et donc c'était important d'avoir une représentation des personnes en situation de handicap.
Oui, exactement. En fait, on a participé hier, c'était le lancement officiel de la semaine d'action pour un meilleur partage de la richesse. On a participé hier à la manif Action qui avait lieu au centre-ville de Montréal. Il y avait environ 300 ou 400 personnes, là, si je ne me trompe pas, selon ce que je voyais. Là.
Et quelles étaient les revendications principales pour cette manifestation-là hier?
Bien, c'est sûr que c'est de revendiquer un meilleur réinvestissement là, un meilleur partage de la richesse au niveau de la fiscalité, un meilleur investissement dans les programmes sociaux et dans les services publics aussi là.
Et est-ce qu'il y avait des revendications particulières à Execo qui étaient amenées sur place?
Bien, on se fondait un peu dans la masse, mais si je peux me permettre, en fait, c'est sûr que pour nous, il y a une nécessité d'augmenter le budget alloué aux services à domicile. Ça va être une de nos priorités là avant le budget qui s'en vient à la fin mars. D'ailleurs, on est en pleine préparation d'actions prébudgétaires aussi en collaboration avec d'autres groupes qui sont touchés par la diminution de l'enveloppe du service à domicile. Donc, pour nous, c'est vraiment une priorité présentement qu'il y ait une augmentation de cette enveloppe-là.
Et ça touche justement le maintien à domicile. Est-ce qu'il y a d'autres sphères aussi de revendications? Par exemple, là, on parle de soutien à domicile, de soins peut-être qui sont offerts. Est-ce qu'on parle d'accès à de l'habitation?
D'accès à l'habitation, oui, totalement. Ben là, on l'a vu dernièrement, là, monsieur, le Parti québécois est sorti je crois hier pour demander un réinvestissement dans le programme Accès Logis, qui est un programme qui permet de construire des nouvelles unités subventionnées de logement social. Mm-hmm. Donc là, on le voyait là, l'année dernière, il était supposé avoir 3000 unités d'habitation qui étaient construites, mais le gouvernement québécois a décidé de couper de moitié, donc il y a seulement 1500 unités qui ont été construites cette année. Donc on espère que l'année que dans le prochain budget qui s'en vient, qu'il y aura à nouveau des unités accès logis qui vont être financées parce qu'on a peur pour que ce programme-là disparaisse.
Mm-hmm. Il y a aussi une manifestation qui s'en vient le 25 février pour défendre le programme PAS Action. PAAS Action, oui. Qui est pour Programme d'aide et d'accompagnement social. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail?
Oui, en fait, cette manifestation-là est bien sûr dans le cadre de la semaine d'action de la Coalition Mains Rouges. C'est le CRADI, qui est le comité régional des associations pour la déficience intellectuelle et le ROP, le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain et, bref, d'autres regroupements qui organisent cette manifestation-là, qui se tiendra au métro Square Victoria. Donc, le programme Passe Action, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis 2013, il y a environ 1000 personnes de moins qui ont accès à ce programme-là. Donc, c'est 28,5% des personnes qui bénéficiaient de ce programme-là qui ne l'ont plus. Donc, c'est 1000 personnes qui n'ont plus d'allocation mensuelle d'environ 130 $ qui n'ont plus de passe d'autobus de payer. Donc, ce programme-là s'adresse vraiment aux personnes qui sont prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale de dernier recours, mm-hmm. et qui désirent rester actifs, mais qui rencontrent des obstacles qui les empêchent de participer à des mesures d'aide à l'emploi. Donc, on pense souvent aux personnes qui ont une déficience physique, qui ont une déficience intellectuelle, aux personnes qui ont problème de santé mentale, aux personnes en situation d'itinérance ou dans une situation précaire.
Oui, donc en un an, justement, le nombre de participants au programme Passe Action a diminué de 22%. C'est 22% de gens qui se retrouvent dans une situation plus précaire et aussi qui luttent un peu plus pour la réinsertion sociale, finalement.
Exactement. Bien, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate sur le terrain. D'ailleurs, ici, chez Execo, on a une personne qui est sous le programme Passe Action, qui est notre réceptionniste René. Et puis, l'année prochaine, il ne sera plus des nôtres parce que son programme Passe Action se termine. Il en bénéficiait pour une durée de 5 ans, en fait.
Et donc, ça ne sera pas renouvelé?
Non, ça ne sera pas renouvelé.
C'est étonnant, en sachant que, justement, c'est un programme qui constitue un moyen reconnu de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté.
Oui, exactement. Bien, en fait, ce que l'Emploi Québec nous dit, c'est que c'est un programme d'aide temporaire pour l'accès à l'emploi, que ce n'est pas une mesure permanente. Donc, ils doivent restreindre la durée.
Le dépôt du budget va se faire dans la semaine du 22 mars par Sam Ahmad. D'ici là, qu'est-ce que vous envisagez comme mobilisation chez Execo?
Bien, comme je vous disais un peu plus tôt, en fait, on est en train de créer une action avec nos membres. Donc, on prépare une action pré-budgétaire qui s'appelle la série La Prescription, dans laquelle nos membres vont témoigner au docteur Barrette et au ministre Ahmad aussi de leurs besoins non comblés en service à domicile et en quoi ce serait un bénéfice pour la société québécoise que le gouvernement réinvestisse en service à domicile, parce qu'on sait que l'an dernier, seulement à Montréal, il y a eu une coupe de 9 millions de dollars dans les services à domicile. Donc, on voit clairement les impacts sur nos membres. On voit clairement qu'il y a une diminution du panier de services en santé et services sociaux sur le terrain. Et nos membres sont plutôt découragés et assez fâchés de cette situation-là. Donc, ça va leur permettre de pouvoir s'exprimer et de se faire entendre auprès du gouvernement.
Justement, quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va être des témoignages vidéo, écrits?
Oui, témoignages vidéo, pour nous, ça a été vraiment une belle révélation parce que quand on voit la personne en situation de handicap, quand on la voit dans son... une image vaut mille mots, en fait. Mm-hmm. Donc, ça va permettre aussi pour les gens qui vont regarder les vidéos, de comprendre un peu plus le pourquoi cette personne-là a besoin de services à domicile.
Si on souhaite offrir notre témoignage ou même participer aux mobilisations, comment on fait?
Vous appelez au bureau d'Execo, vous pouvez me demander ou demander Benoît Racette, ça va nous faire plaisir. On va vous inclure dans ces témoignages. En fait, puis la date butoir, c'est vraiment la semaine prochaine. Donc, je dirais le 29 février là, ou le 1er mars maximum, là, si vous voulez participer, on va vous inclure, ça va nous faire plaisir.
Puis, en terminant, Alexandra Damour, profitons des ondes et quel message vous voudriez envoyer à nos instances gouvernementales concernant le prochain budget et les répercussions que les décisions peuvent avoir sur vos membres?
Bien, moi, j'irais toujours dans le service à domicile, que l'inclusion sociale, ça passe par une offre de service à domicile adéquate quand on le nécessite. Et pour l'instant, le gouvernement du Québec nous donne l'impression de vouloir placer en institution les gens au lieu de leur permettre une quête d'autonomie à domicile.
Merci beaucoup. Alexandra Damour, vous êtes agente de défense des droits chez Execo. C'était votre chronique de ce mois-ci. On a beaucoup de choses qui s'en viennent et certainement que les conditions actuelles vont nous donner beaucoup de matériel à explorer avec vous dans les prochaines semaines. Merci et bonne semaine de mobilisation.
Merci beaucoup.
Brunswick avec un degré de séparation tiré de leur album Chassé-croisé, paru en 2016. C'est une découverte pour moi aujourd'hui. Donc, on découvre ce petit bijou de musique locale francophone ensemble ce midi. Petite révolution dans le domaine des instruments d'optique. Les lunettes eSight promettent d'améliorer grandement la vie des personnes malvoyantes avec sa technologie électronique, dont on va parler davantage avec David Demers, responsable du développement des affaires et relations publiques. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Donc, d'abord, parlez-nous de votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé à utiliser les lunettes eSight et vous en êtes venu à travailler pour la compagnie?
C'est un parcours assez intéressant. Bon, j'ai perdu la vue il y a environ un peu plus de 6 ans. C'est arrivé très soudainement. Avant, j'étais photographe commercial, donc je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai dû m'adapter. Je suis retourné aux études également. Et c'est durant mes études que j'ai fait un stage en communication pour INCA. Et en organisant le salon Technovision, j'avais entendu parler de eSight. Je voulais absolument les avoir au salon, mais il n'y avait pas de représentant francophone pour la compagnie. Donc, je me suis offert pour la journée. Et c'est comme ça que j'ai pu essayer les lunettes pour la première fois. D'ailleurs, dans mon cas, les gens de eSight pensaient que c'était pas pour marcher pour ma vision, mais j'étais capable de lire sur un écran d'ordinateur. C'était vraiment un moment « wow ». Et depuis ce temps-là, je me suis procuré les lunettes eSight. Ça fait un peu plus de 2 ans que je les utilise.
Et donc, je le dis, il les porte en ce moment en studio. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous? Comment est-ce qu'on peut décrire, en fait, l'effet des lunettes eSight?
C'est vraiment quelque chose qui change une vie pour beaucoup de gens. C'est un moment wow instantanément, soit pour voir des visages. Il n'y a pas vraiment d'autres aides visuelles qu'on peut avoir cette interaction-là avec les humains avec qui on parle. Dans mon cas, c'était aussi durant ma dernière année d'études à l'université. C'est grâce aux lunettes eSight que j'ai mis pied dans la bibliothèque pour la première fois. Donc là, j'avais vraiment accès à n'importe quel livre sans être obligé d'attendre que ça soit converti en format numérique. C'est comme ça que ça a ouvert des portes pour moi, mais j'ai découvert au cours des 2 dernières années beaucoup d'activités que je peux faire avec les lunettes.
Concrètement, les lunettes eSight, c'est quoi? Comment ça fonctionne?
Alors, essentiellement, c'est une grosse paire de lunettes de soleil qui a une caméra juste au-dessus du nez qui va capter tout ce que je regarde et les images sont transmises par un câble au module de commande. Dans le module de commande, il y a une batterie et il y a les contrôles pour le zoom, le contraste. Et donc, les images sont transmises dans l'ordinateur en temps réel et sont retournées dans les écrans qui sont très près de mes yeux. Et étant donné que les écrans sont près de mes yeux, ça me permet vraiment de maximiser mon résidu visuel.
Là, on parle, il y a un câble, si on veut, qui part, qui fait un peu le tour de votre oreille, qui s'en va. C'est un petit ordinateur portable, finalement.
Exactement.
Qui est dans votre poche de veston actuellement.
Oui, c'est ça. Et puis de là, je peux contrôler le zoom, le contraste, la mise au point. Je peux améliorer l'image de façon à la rendre plus facile à voir pour ma type de vision.
Donc, c'est un petit appareil. Ça prend très peu de place, finalement. C'est facile à transporter. C'est pas lourd à porter?
Non, c'est pas lourd. La première journée, on le sent qu'on l'a sur la tête, mais on s'habitue rapidement. Et c'est vraiment portable. Donc, c'est ce qui est révolutionnaire de eSight, c'est qu'on a les mains libres durant qu'on le porte. On peut se déplacer avec les lunettes. Et il n'y a vraiment pas de délai entre l'image captée et ce qui est montré sur les écrans. Donc, il n'y a pas de nausée. C'est très sécuritaire également.
On parle de l'idée de maximiser les résidus visuels. À quelle clientèle est-ce que ça s'adresse?
Ça s'adresse surtout à des gens qui ont une perte de vision centrale. Donc, des gens qui ont la dégénérescence maculaire, la maladie de Stargardt, mais également beaucoup d'autres types de pertes de vision comme la rétinopathie diabétique, la dystrophie des cônes et des rods, la rétinopathie prématurée. On en découvre de plus en plus des conditions visuelles qu'on est capable d'aider. Et ça va surtout dépendre de la quantité de vision qui reste. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une basse vision ou des gens qui sont aveugles au sens de la loi, mais qui ont encore de la vision qu'on peut utiliser.
Mm-hmm.
Y a des cas que c'est un peu plus cas par cas, je dirais, comme pour la rétinite pigmentaire ou le glaucome. Mais on a des utilisateurs. Donc, on invite toujours les gens à essayer les lunettes parce que des fois, on peut avoir des surprises.
Oui, justement, il y a possibilité d'essayer les lunettes gratuitement.
Absolument. Donc, c'est important. Pour nous, on ne va pas vendre une paire de lunettes à personne sans qu'il les ait essayées avant. On veut être certain que ça fonctionne et que ça peut améliorer la condition de vie de quelqu'un. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont juste arriver à lire peut-être une lettre à la fois, mais je pense pas qu'on va se mettre à lire un roman comme ça. Fait qu'on veut vraiment être sûr que ça aide les gens. On peut essayer les lunettes sans frais, soit en allant à nos bureaux permanents à Toronto ou à Ottawa, et sinon, on a des équipes qui se déplacent un peu partout en Amérique du Nord et on vient régulièrement à Québec et à Montréal.
Donc, on peut être, à ce moment-là, faire une demande puis être en contact, être en mesure d'essayer l'appareil. Vous avez vos lunettes depuis 2 ans.
Mm-hmm.
Est-ce que la durée de vie d'un appareil comme ça, ça ressemble à quoi? Ou même de la batterie de l'ordinateur qui est nécessaire, ça ressemble à quoi au niveau d'autonomie?
C'est une technologie très robuste. D'ailleurs, il y a plusieurs composants qui sont de grade militaire, et incluant le plastique du boîtier. Donc, c'est très solide. On a des enfants qui les ont échappés plusieurs fois. Et puis aussi, pour la durée de vie, on a une très bonne garantie de 3 ans. On ne veut pas que les gens aient peur de sortir de la maison, étant donné le coût de l'appareil, par peur de le briser.
Mm-hmm.
Donc, on a une excellente garantie aussi.
Donc, parce que le but, c'est de donner le plus d'autonomie aux gens, donc de qu'ils puissent sortir aussi, puis faire leurs activités quotidiennes. On parle d'aller à l'épicerie, d'aller au cinéma même. C'est quelque chose de possible, d'aller voir des concerts.
Absolument. C'est ça qui est vraiment le fun de eSight. C'est que contrairement aux autres visuels, on peut aller au théâtre, au cinéma. Je l'ai fait moi-même. J'ai déjà joué au bowling avec les lunettes, au pool. Lorsque je fais mes courses, je suis capable de lire le prix sur la tablette du haut ou la tablette du bas sans me pencher.
Mm-hmm.
Donc, c'est très, très versatile. Pour mon travail, je voyage beaucoup également. Donc, mon environnement de travail change constamment et je peux vraiment m'adapter à tous les environnements. Lire un menu dans un restaurant, c'est vraiment incroyable. J'aide même des gens à jouer au golf pour aller au travail. La liste est très, très longue.
Oui, finalement, les possibilités s'allongent à l'infini.
Mm-hmm.
Est-ce que ça a une bonne vision de soir?
Oui, ça fonctionne très bien la nuit. Ça se peut que l'image, en certaines conditions d'éclairage, devienne un peu granuleuse dans les écrans. À ce moment-là, moi, je vois ça plus en termes de vision fonctionnelle.
Mm-hmm.
Par exemple, j'arrive quand même à lire une bouteille de prescription, mais l'image est très zoomée, parfois un peu granuleuse, mais le fait, c'est que ça m'a aidé à fonctionner.
Exactement. Donc, tout de même, on reste à un niveau fonctionnel, ce qui est très, très acceptable. Combien ça coûte? Parce que là, on parle de tout de même, qu'est-ce que ça amène comme technologie, qu'est-ce que ça peut créer comme effet chez les gens qui portent les lunettes eSight. Mais combien ça coûte?
C'est un investissement de 15 000 $ US en ce moment, donc c'est environ 19 500 Canadiens. Et j'appelle ça un investissement parce que, d'ailleurs, il y a une légère courbe d'apprentissage au début. Il faut être prêt à mettre un peu d'effort. Et également, vraiment, on peut en retirer beaucoup des lunettes. En même temps, je tiens à souligner qu'on comprend que ça peut être une barrière pour beaucoup de gens.
Mm-hmm.
Et on fait tout ce qu'on peut pour connecter des gens à des sources de financement. On a en ce moment 100 levées de fonds en Amérique du Nord, de 100 personnes qui veulent faire des levées de fonds. Il y en a qui l'ont fait en quelques jours, d'autres en quelques mois. Et on les guide durant ce processus-là. Donc, on a eu plusieurs histoires de succès. Et pour quelqu'un de jeune comme moi, moi, j'ai vraiment vu ça comme un investissement dans ma carrière, dans mon futur aussi.
Mm-hmm. Tout de même, on parle de près de 20 000 $ canadiens. Est-ce qu'il y a des remboursements d'assurance? Est-ce que, même si la technologie est nouvelle, est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que c'est exploré du côté de l'assurance maladie, par exemple, pour voir à quel soutien on peut apporter aux gens qui en auraient besoin?
Alors, en ce moment, c'est considéré un appareil médical, classe 1, donc c'est non taxable. Et puis, dans certains cas, ça peut être déductible d'impôts, surtout pour des travailleurs autonomes, bien sûr. Donc, pour ce qui est du reste, le gouvernement et tout, on travaille très agressivement au niveau des programmes d'aide visuelle du gouvernement, des compagnies d'assurance. On est une compagnie encore très jeune. Et on doit faire nos preuves pour ces organismes-là. Alors, en ce moment, on est en train de commanditer une étude qui coûte près $1 million avec toutes les grandes universités aux États-Unis et au Canada, incluant l'Université de Montréal, pour une étude qui va démontrer les bienfaits de l'appareil dans une étude standardisée.
Mm-hmm. Est-ce qu'on est en mesure de savoir combien de gens l'utilisent jusqu'à maintenant, la technologie?
Oui, actuellement, on a atteint les 500 utilisateurs récemment et ça continue à grossir tous les mois.
Parce que c'est très nouveau, vous avez le bureau de Toronto a lancé la technologie en 2015 ou un peu avant?
On a lancé en novembre 2013.
2013.
Oui, sauf qu'on est allé très tranquillement. On voulait, comme je disais, faire nos preuves. On voulait vraiment s'assurer qu'on ne fasse pas des fausses promesses comme tant de compagnies dans le passé ont fait. Donc, on a fait très attention de faire ça comme il faut.
C'est fascinant d'entendre cette micro-révolution technologique. David Demers, vous êtes responsable du développement des affaires et relations publiques chez eSight. Vous êtes un bon exemple, en fait, finalement, de l'utilisation de ces lunettes. Vous les portez avec nous aujourd'hui.
Mm-hmm.
Merci d'avoir été présent dans nos studios.
Ça me fait plaisir, merci.
C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie mes invités, David Demers de eSight, Alexandra Damour de Execo, Marc-Antoine Ducharme de Parasport Québec, et on avait commencé l'émission avec Marie-Camille Blais de Inca. Je remercie aussi mon équipe technique avec moi à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.